Vous écoutez Conversation avec les agilistes, une production artisanale de l'Institut Agile. Dans cet épisode, un entretien avec Jonathan Perret.
Eh ben bonjour Jonathan.
Bonjour.
Je te remercie d'avoir accepté le rôle de cobaye pour l'épisode pilote de cette émission. Et donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on situe un peu qui tu es?
Oui, alors bah, rapidement, donc je suis Jonathan Perret, je suis développeur de logiciels depuis un peu plus de 10 ans maintenant.
Où travailles-tu en ce moment?
Donc en ce moment je travaille chez UT7 à Paris.
Quand tu dis développeur, c'est vraiment développeur, tu fais du code ou quelqu'un de senior comme toi est-il devenu chef de projet?
Non, j'ai bien résisté aux pressions qui m'auraient incité à devenir chef de projet effectivement. C'est important pour moi de continuer à faire du code, à programmer. C'est ma passion au départ qui m'a amené dans ce métier-là.
Ouais, je te taquine un peu avec cette histoire de chef de projet, mais en fait, j'aimerais bien que tu me parles de quelque chose. C'est l'approche performative du code. Mm-hmm. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais donc avec Emmanuel Gaillot sur ce sujet?
Il y a à peu près un an, on s'est dit avec donc Emmanuel Gaillot, tiens, si on essayait d'explorer des formes un petit peu nouvelles de présentation de l'acte de programmation. Ça, c'est quelque chose que Emmanuel pratiquait déjà, notamment dans diverses conférences, de faire une démonstration de code de programmation devant un public. Avec tout un tas de vertus intéressantes, notamment de montrer comment pratiquer par exemple des choses comme TDD, le développement dirigé par les tests, montrer notamment comment c'est une pratique concrète et réelle, qu'on le fait vraiment et pour beaucoup de gens.
C'est pas juste un truc qu'on raconte.
C'est ça, oui. Surtout quand on a une posture, souvent en conférence, c'est des conférences essentiellement de consultants et le risque est d'avoir cette posture de faites comme je dis et puis si on n'apporte pas vraiment la démonstration. Donc ça c'était déjà établi. Par ailleurs avec Emmanuel, donc là où on s'est rencontrés, c'est au Coding Dojo de Paris.
Donc, le plus ancien des Coding Dojo.
Voilà, exactement. Donc qui est dans sa sixième année, je crois.
Ça ne rajeunit pas.
Voilà, c'est ça. Mais qui continue, bon pied, bon oeil.
Tu peux rappeler quand même ce que c'est qu'un coding dojo, très rapidement.
Bien sûr, donc très rapidement, le principe du coding dojo, c'est se retrouver entre programmeurs à intervalles réguliers et même relativement fréquents, puisque là on parle d'une fois par semaine, pratiquer le code en fait ensemble. Alors ça pourrait prendre différentes formes. J'étais pas là au début, mais il me semble que vous avez expérimenté différentes approches au début.
Il y a eu très très brièvement une formule dans laquelle chacun était sur son portable.
C'est ça.
Et je crois que ça a un peu changé depuis.
Voilà. Donc la formule actuelle, vraiment, il reste essentiellement deux formules, mais qui ont en commun le fait que deux personnes sont assises devant un clavier et le reste, à un instant donné, et le reste des participants assistent à la programmation qui est en train de se faire. Alors les deux formules étant une où c'est les deux mêmes personnes pendant une heure et demie qui vont pratiquer, et l'autre où il y a une rotation et toutes les 5 minutes c'est deux personnes différentes qui se retrouvent face au clavier.
Mais plus ou moins participatif, mais il y a toujours un binôme, donc c'est la loi du binôme qui s'applique.
On profite de ce lieu justement pour pour s'entraîner sur les pratiques notamment comme le développement par les tests la conception simple et toutes ces choses-là qu'on met directement en pratique ensemble. Et si je faisais l'inventaire, une autre pratique qui est importante qu'on exploite dans le dojo, c'est la rétrospective, puisqu'on commence toujours le dojo par la rétrospective de la session précédente. Donc en fait, c'est un lieu vraiment intéressant pour travailler des pratiques avec une application particulière et une introspection sur vraiment ce qu'on est en train de faire.
Et donc du coup, après plusieurs années, il y a autre chose qui a émergé de cette
Donc
histoire de
voilà.
dojo.
Donc à un moment donné, ce qu'on se dit avec Emmanuel, c'est tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas présenter quelque chose qui aille un petit peu plus loin, qui fasse aussi intervenir des apports extérieurs. Alors, en termes d'apport extérieur, c'est notamment, Emmanuel a une formation en réalité et pas mal d'expérience dans le théâtre. Et moi, ça m'intéressait aussi d'aller par là. Donc, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a créé, c'est une formule où on va pratiquer, on va écrire un programme pendant une heure et demie devant un public. Et simplement, on va enrichir la session en demandant au début de la session, en demandant au public de rédiger des contraintes sur des contraintes, des règles sur des
Est-ce que
petits bouts
tu
de
peux
papier.
donner un exemple?
Alors, j'hésite éventuellement à donner un exemple parce que après quand les gens ça influence les gens quand c'est arrivé, on aime bien la fraîcheur des gens qui n'ont pas été influencés, mais bon, je vais quand même.
Est-ce que moi je peux imaginer un
Oui, par
exemple?
exemple.
Donc si je disais par exemple, on peut dire n'importe quoi ou il y a
On donne
des.
absolument aucune contrainte, aucune indication. Enfin, c'est ça qui est amusant aussi, c'est que on donne
C'est
aucune indication aux
tentant,
gens.
c'est tentant. Alors si je vous dis par exemple programmer en bleu,
Voilà, par exemple, ben, on programmera en bleu. Oui.
vous allez devoir bosser avec ça.
On va travailler avec ça. Alors, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on collecte donc tous ces petits bouts de papier dans un chapeau, et après, donc, on va se mettre au travail et prendre un papier toutes les 5 minutes dans le chapeau et exécuter ce qui est appliquer ce qui est sur le papier. Donc, si on tirait effectivement ce papier où il est écrit programmé en bleu. Bah, charge à nous d'imaginer comment ça va se traduire. Alors là, comme ça, au débotté, j'imagine assez bien une solution assez facile qui serait de mettre la fonte de l'éditeur de texte en bleu. Mais en général, on cherche à être un petit peu plus créatif que ça. Et bon, j'imagine qu'on trouverait probablement quelque chose de. Un petit peu plus spécial, voilà.
Genre trouver moyen de transposer une gamme de blues en programmation.
Exactement, voilà, ça pourrait être ce genre de choses. Bon. Et puis peut-être qu'on trouverait pas mieux et qu'on écrirait en bleu, hein. C'est comme on en tire une toutes les 5 minutes, on finit toujours par trouver un certain nombre de choses qui sont intéressantes et qui sont amusantes, quoi. Donc voilà, donc c'est une forme, pour ceux qui connaissent, qu'on a évidemment piqué au théâtre d'improvisation.
Ah.
Puisque donc ça, c'est une forme très connue dans le théâtre d'improvisation, d'avoir, y compris jusqu'au chapeau, enfin, le public qui contribue des sujets ou des mots. Alors ça peut prendre diverses formes, mais. Effectivement, c'est le public qui met des mots dans un chapeau, donc par exemple ornithorynque, qui est donc les acteurs vont prendre ornithorynque en plein milieu et devoir placer dans leur conversation tout d'un coup un
Ouais.
ornithorynque.
Brodé là-dessus.
Voilà, broder dessus. Donc on essaye un petit peu de s'inspirer de ça. Mais tout en restant vraiment, tout en continuant l'acte de programmation dans lequel on s'est engagé.
Il faut qu'il y ait quand même à l'arrivée un programme qui tourne.
Exactement. Bah, en fait, comme on est toujours complètement dans une approche incrémentale et itérative, le programme il tourne plutôt dès le début, à l'arrivée. Et puis on va l'enrichir progressivement, tout en essayant de. Voilà, tout en intégrant ces contraintes qui arrivent et en essayant malgré les contraintes. D'arriver à quelque chose.
Ouais. Bon, c'est déjà, y a déjà un petit stimulant à l'imagination là pour les gens qui nous écoutent, d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient inventer comme coup tordu à vous mettre dans le chapeau.
Oui.
Donc typiquement, ça se passe devant combien de personnes?
Donc c'est une session qu'on a proposée à quelques conférences, qu'on a eu l'occasion de faire aussi dans une entreprise une fois, et puis aussi pour une association de développeurs en Land.
Et là où je me souviens de l'avoir vu, c'était dans une réunion d'un groupe au nom un peu improbable d'Orkbot,
Ah oui.
qui s'est retrouvé à Paris dans les caves de Jussieu.
C'est ça.
Il
Parce
y a
qu'en...
un côté, y a un côté un peu, je sais pas, quartier latin des programmeurs. C'était peut-être juste la coïncidence, hein, mais
Ouais. Peut-être je réponds à ta question sur le nombre de personnes.
vas-y,
D'abord, en
finis.
gros, c'était... Donc, en gros, d'habitude, on l'a fait, il y avait quelque part entre 20 et 40 personnes en général. Donc, c'est une session de conférence agile, tout ce qu'il y a de classique. Donc, on l'a proposé un certain nombre de conférences. Donc, on a été à XPD Benelux, on est revenu au mini XPD Benelux. À Agile Tour Bordeaux aussi, la fête, etc. Et là, je rebondis effectivement sur cette réunion d'Orgbot. C'est intéressant parce que pourquoi on se retrouve à d'Orgbot? Parce que justement, on essaye de déborder du circuit, on va dire, de base de la conférence Agile, quoi. Ce qui nous stimule là en ce moment, c'est de voir jusqu'où on peut élargir cette performance en fait qui est réalisée par des programmeurs, mais pas nécessairement à destination de programmeurs en réalité, et de voir jusqu'où on peut élargir enfin, l'audience de cette forme-là, et notamment aller voir des gens comme Dorkbot. Donc en fait, Dorkbot, c'est un regroupement de la scène un peu art numérique contemporain de
C'est des geeks.
oui c'est pas vraiment des geeks, enfin c'est des geeks et des artistes ou des artistes geeks. On est dans le milieu de l'art contemporain dans la sous-section art numérique en
D'accord,
fait.
ouais, c'est un lieu de rencontre en fait entre deux mouvances.
C'est ça, donc on y trouve effectivement du geek de base et de l'artiste aussi. Et il y a ce mixage entre les deux qui donne naissance à des créations intéressantes. Et donc c'est pour ça qu'on a été présenter notre travail dans ce cadre-là pour justement avoir un petit peu plus de feedback de gens qui sont pas dans le milieu justement des développeurs à proprement parler.
Ouais. Je peux imaginer la scène, genre dans un café, un truc comme ça, où ça
Et,
changerait de...
exactement, exactement. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en se renseignant, en regardant un petit peu ce qui se fait dans le justement sur cette scène de l'art numérique et de la performance, d'ailleurs numérique ou pas. En fait, au départ, on a cette idée un peu folle, on se dit, tiens, ce qu'on fait là, bon, bah, c'est plutôt bien reçu dans des conférences qui grouillent de développeurs. Bon, ok, très bien, mais est-ce que vraiment, raisonnablement, c'est quelque chose qu'on peut infliger à des gens qui sont pas, qui lisent pas du code à longueur de journée
Ah oui, j'ai envie de dire c'est un pari, parce que c'est pas évident, même à la base, que ça puisse plaire même à des programmeurs.
Ouais.
Et en plus, vous avez peut-être pris dans le format dojo, si j'ai bien compris, la partie qui était plus performative que participative. Donc en faisant le pari certainement osé, que voir des gens programmer, ça peut présenter de l'intérêt. Alors déjà pour d'autres programmeurs c'est pas quelque chose qui va de soi, mais finalement c'est aussi vous allez plus loin en disant ça peut être intéressant et ça peut interpeller, y
Exactement.
compris des gens du public.
En se renseignant, en regardant ce qui se fait dans le milieu de la performance et tout ça, cette idée qu'on a au départ de dire c'est un peu fou quoi de faire un truc aussi abscon finalement du point de vue du public, on relativise beaucoup quand on voit ce qui se fait dans le milieu de la performance et de l'art contemporain. où voilà, enfin j'ai pas d'exemple précis en tête, mais enfin si d'ailleurs à une autre réunion de Dorkbot, j'ai pu assister à des choses qui étaient totalement. Enfin j'ai vu un groupe de Coréens par exemple qui faisait de la musique. Enfin c'est eux qui disaient qu'ils faisaient de la musique là, en branchant tout simplement des amplificateurs sur des pièces électroniques aléatoires dans lesquelles ils faisaient passer du courant. Enfin, c'était voir ce genre de choses et voir qu'il y a un public pour ce genre de choses, finalement ça rassure beaucoup sur le fait qu'il y a certainement un public pour faire quelque chose comme ce qu'on fait, qui est finalement relativement sage.
Ok. En même temps, si je me fais un peu l'avocat du diable, peut-être que le programmeur que tu vas croiser, je sais pas, dans une SS2I, dans une banque, chez un éditeur, il peut quand même se dire, bah oui, mais enfin, au final, quelle est la pertinence de ça pour ce que moi je fais au quotidien?
Alors, tout à fait. Les réponses par les programmeurs qui ont pu voir notre performance, en fait, c'est intéressant parce qu'il y en a eu plusieurs, notamment, qui sont du type ce que vous faites est super, la façon que vous avez de travailler ensemble, c'est très impressionnant, mais ça pourrait absolument pas se passer comme ça chez moi, enfin dans mon boulot. Et bah, quelque part, c'est intéressant. Enfin, ça veut dire qu'on leur montre un modèle qui pourtant n'est pas complètement extravagant. Enfin, même si là, la réaction qu'on a des gens est teintée de pessimisme, finalement, ça ne pourra jamais être comme ça chez moi. Ils sont quand même déjà dans la démarche d'imaginer que ça puisse se passer comme ça pour eux. Donc ils font d'une certaine façon la connexion avec ce qui pourrait éventuellement se passer un jour chez moi. Ça leur donne une vision, même si effectivement dans leur service informatique de leur assurance, ça risque d'être difficile.
Ou pas tout de suite.
Peut-être pas tout de suite, mais ça peut-être, sur le long terme, je sais pas, les inspirer pour dire...
Voilà. Je me demandais si ce mot-là allait effectivement sortir. Donc, vis-à-vis des programmeurs, une des conséquences, je ne dis pas que c'est un objectif, hein, mm-hmm. Donc une des conséquences de ce que vous faites, ça peut être d'inspirer les gens à avoir d'autres approches de leur travail. Et vis-à-vis des non-programmeurs ?
Vis-à-vis des non-programmeurs, ce qu'on peut avoir comme objectif, enfin, moi notamment, que je vois, c'est très concrètement une valorisation de notre métier, en fait, déjà. C'est-à-dire que, ou peut-être déjà très plus modestement, commencer par une connaissance. C'est-à-dire que aujourd'hui, 100% des gens sont confrontés à du logiciel, souvent malgré eux et souvent pas pour leur plaisir. Mais très peu finalement, dans notre microcosme, on en voit tout autour de nous des gens qui font du logiciel, mais en réalité dans la population générale, très peu de gens savent, ont une idée de comment se fabrique le logiciel. Ouais. Ça pourrait aussi bien être emballé par des marmottes.
Ils en ont peut-être aussi une image qui n'est pas très valorisante, du genre, tu connais la définition d'un programmeur extraverti?
Non.
C'est un programmeur qui regarde tes chaussures quand il te parle.
Effectivement, oui. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a toute une culture populaire là-dessus qui donne une idée particulière de... J'en pense notamment, enfin, la dernière image que j'ai vue, c'est un film qui est très bien en demeurant, qui est The Social Network. Où encore une fois populariser cette image du programmeur qui est branché, ouais. Il a son casque sur les oreilles, il est fermé à toute communication.
J'ai vu une appli sur le web qui est assez marrante, ça s'appelle Programmer comme un hacker dans les films.
Ouais.
Et en fait, tu règles la vitesse à laquelle une frappe de clavier fait naître 15 lignes de code ou 5 lignes de code. Et c'est en fait ce qui est marrant, c'est que ça reproduit tout à fait le cliché, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui tape à une vitesse hallucinante et puis on sait pas du tout ce qu'il fait, mais ça n'a pas d'importance parce que ça
Exactement.
finit par sauver le monde.
Exactement. Et notamment, c'est vrai que typiquement, ce qu'on ne voit jamais dans le film, dans un film, c'est un programmeur qui explique ce qu'il est en train de faire. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit aussi rarement en fait en entreprise ou dans le milieu des développeurs. Pour les non-programmeurs, voilà, il s'agit de leur montrer comment se fabrique le logiciel et comment c'est pas forcément comme ils peuvent le voir dans les films. Et leur montrer, si possible, sous un jour positif, et leur montrer que c'est quelque chose qu'on peut faire en y prenant du plaisir et en...
Et vous avez essayé de faire circuler le chapeau à la fin pour voir si les gens mettent des sous dedans
Alors,
ou...
c'est intéressant parce que ça fait aussi partie, effectivement, de notre challenge, on va dire. Ça serait arriver à ce que cette performance-là puisse être livrée à un public général, à des non-programmeurs, et qu'en plus on soit payé pour le faire. C'est plus comment dire, un point sur l'horizon, un cap que réellement un objectif qu'on atteindre à court terme.
Vous faites pas ça pour l'argent, quoi.
C'est ça, voilà. On fait pas ça pour l'argent, mais en fait, on essaye de se mettre quand même dans cette perspective-là, parce que ça oriente, on a été content récemment de faire un pas dans cette direction, parce que par exemple, il y a cette association de développeurs hollandaise, dont un membre nous avait vu à la conférence XPD Benelux, qui a fait en sorte que son association nous invite en Hollande. Donc on a été entièrement défrayé pour le voyage, l'hôtel, etc., pour une performance qu'on a faite là-bas, pour faire cette présentation.
Ce que je trouve intéressant dans cette idée aussi de dire. Donc vous avez appelé ça The Cat in the Hat,
Ouais.
la version anglaise.
Ou effectivement, parfois en français, le catamaran.
Le catamaran. Et donc le catamaran part en tournée.
Ouais.
C'est quand même une perspective un peu différente sur un sujet qui a agité un peu le microcosme des développeurs de start-up, qui était les développeurs rockstar.
Ouais.
Il y a quand même aussi quelque chose d'intéressant à se dire que ceux qui sont un peu les tenants de cette idée de dire la programmation, on en parle trop, on ne fait pas assez, c'est des gens qui montrent beaucoup finalement des produits, mais pas forcément du code hein, en définitive. Et pas forcément ce qui est peut-être un point important aussi de l'activité de développeur, qui est la manière dont on fait les choses côté. Enfin, ça renvoie aussi au débat sur le craftsmanship. Il n'y a pas que le produit final qui est important, la manière dont ça se comporte, mais il y a aussi la façon dont on a développé, dont les lignes se sont mises bout à bout.
Oui, exactement. Et comment dire, la quantité de sang et de larmes qui ont participé à l'élaboration du produit, c'est vrai que c'est significatif.
Ou à contrario, peut-être l'aisance avec laquelle vous pouvez
Exactement.
vous sortir d'une contrainte un peu
Ouais.
alambiquée et a priori impossible.
Bah, ça me fait penser à une autre réaction, un autre type de réaction qu'on a de la part, bon, essentiellement de développeurs qui voient notre performance. Ils viennent nous dire spontanément, enfin, sans qu'on l'ait vendu comme ça, que ce qu'ils ont vu était comme une métaphore de leur quotidien finalement. À savoir, je suis en train d'essayer de faire quelque chose et pleuvent sur moi des injonctions totalement absurdes auxquelles je dois faire face et malgré lesquelles je dois continuer à travailler. Donc ça, c'est effectivement, j'imagine assez bien que ça reflète le quotidien de beaucoup de nos confrères.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter à l'intention des gens qui vont nous écouter?
Mon actualité, comme on dit quand on invite des stars, c'est que la prochaine session publique du Cat in the Hat, elle sera faite en Amérique, à Salt Lake City, à l'occasion de la conférence Agile 2011, pour laquelle nous avons été retenus contre toute attente. C'est ce qui est plutôt agréable.
Cocorico.
Cocorico, on a quand même dû sortir l'artillerie lourde dans le processus de sélection pour défendre notre proposition, on a été chercher une citation de Bertolt Brecht sur les théâtres épiques. Chapeau Emmanuel pour avoir trouvé ça.
Bon, ben, rendez-vous là-bas, en espérant que tout ça se sera monté et diffusé d'ici le mois d'août.
Voilà.
Et puis, ben, merci encore.
Je t'en prie, merci Laurent.